Bon ben, on va quand même commencer, on va faire un effort là de la voix, et puis on verra bien si ça revient, l'électricité. La vengeance, un archétype de la fantaisie avec Gabriel Katz, Samantha Bailly, Olivier Gay. Alors, ouais, c'est beau, hein,
hein. C'est la bourrée poitevine, ça, qui fait son effet.
En effet. Alors, au lieu d'un archétype, je vais être un peu à tello, là. Un archétype, c'est un personnage. La vengeance n'est pas un personnage. Donc, on devrait plutôt dire un topos de la fantaisie, pour parler comme Anne Besson dans ses bouquins universitaires. C'est un topos du roman d'aventure, en fait. Dès l'Iliade d'Homère, dès Électre d'Euripide ou de Sophocle, ce sont des histoires de vengeance. Carrie de Stephen King, par exemple. Hamlet, il faut tuer celui qui a tué le père, tout au moins le confondre. Le western a beaucoup utilisé les histoires de vengeance. True Grit, par exemple, c'est la fille dont le père a été tué qui veut retrouver le tueur avec l'aide d'un shérif qui, dans le premier film, était John Wayne, dans le deuxième, est Jeff Bridges. Mais c'est d'abord un roman de Charles Portis. Et puis, il y a la belle et grande histoire de vengeance française qui est Le Comte de Monte Cristo, où Edmond Dantès recherche par tous les moyens celui qui l'a emprisonné au château d'If. Au cinéma, les histoires de vengeance sont assez légion, et légion, c'est un bon mot, puisque Gladiator est une histoire de vengeance. Kill Bill, histoire de vengeance, La vengeance dans la peau, le cycle Jason Bourne. Il était une fois dans l'Ouest, Charles Bronson, et Unforgiven aussi de Clint Eastwood, évidemment. J'ai lu quelque part que les histoires de vengeance font souvent de bons romans de fantaisie. C'était une critique sur le Blizzard, le roman Blizzard de Pierre Gaulon. Et c'est vrai qu'en fantaisie, il y a pas mal d'histoires de vengeance. Avant de parler de celles de ceux qui sont à côté de moi, et à La peau des rêves de Charlotte Bousquet, Servir foi de John Abercrombie, évidemment. Beaucoup de Gemmell sont basés sur des histoires de vengeance. Puis il y a un bouquin qui s'appelle Vengeance, tout court, de Fabrice Collin. Alors, Samantha, on va commencer par toi. Oraison, c'est une histoire de vengeance. Raconte un peu.
Je raconte. Vous me dites si je parle pas assez fort, hein, parce que... Alors, Oraison, en effet, c'est... pour resituer l'univers, une théocratie dans laquelle les gens sont persuadés que quand ils meurent, ils se réincarnent sur une étoile qui leur a été attribuée à la naissance. En fait, pour avoir accès à ce paradis en quelque sorte, il y a néanmoins un prix à payer, c'est que, il faut payer justement cette cérémonie. C'est-à-dire que vous ne pouvez accéder à la vie éternelle qu'en échange de vos petites économies. Donc tout cet univers gravite autour du fait qu'on se prépare à cette mort-là et à la voir de la manière la plus sympa possible, on va dire en quelque sorte. Mais l'histoire commence lorsqu'une jeune fille qui s'appelle Miliane, qu'on pense être le personnage principal de ce roman, se fait assassiner en plein milieu de la nuit dans la rue. Et étant donné qu'elle est la fille de cette grande corporation religieuse, on commence à comprendre que ce meurtre n'est peut-être pas lié au fait du hasard. Et les deux sœurs plus aînées, Eileen et Nouni, vont chacune à leur façon réagir différemment par rapport à ce meurtre. Nouni, elle, va plutôt le rattacher à des problèmes politiques, mais Eileen, elle, ce qu'elle veut, c'est retrouver le meurtrier de sa sœur. Donc elle va démarrer une sorte de quête effrénée, où elle va passer par beaucoup, beaucoup d'épreuves pour essayer de venger sa sœur.
Olivier Gay, Les épées de glace, l'épée de glace,
Les épées de glace.
La vengeance est le maître mot là, de ce roman.
Ouais.
Tout le monde veut se venger.
J'espérais que pendant que Samantha parle, le micro soit rétabli, mais c'est pas le cas.
Non.
Voilà. Vous m'entendez, c'est bien ?
Ouais.
Ouais, ok. Oui, donc c'est une histoire de vengeance. C'est uniquement, presque uniquement une histoire de vengeance, puisque tout le mécanisme finalement du roman, c'est une fille qui va être assassinée à la capitale. Et son père qui n'est pas très content, bizarrement, et qui va d'une part essayer de comprendre ce qui s'est passé, pardon j'ai la voix qui déraille, et d'autre part essayer de se venger. Et donc effectivement tout le roman va être la quête de ce père pour venger sa fille, Sachant qu'évidemment, ça va être un petit peu plus compliqué que ce qu'il imaginait au début. Et que le père en question n'est pas... Alors, il y a une critique que j'ai beaucoup aimée où il disait « Le père, c'est pas Jojo le rigolo. » C'est vrai que le père n'est pas Jojo le rigolo. Et que du coup, bah, l'histoire de vengeance prend de l'ampleur parce que le père de cette fille, qui a été tué de manière complètement anonyme, et lui n'est pas du tout anonyme, et une personne qui s'appelait autrefois le boucher, qui a un passé sanglant, qui a fait toutes les basses œuvres de l'empereur, et qui va se retrouver finalement, qui avait été exilé pour tout le mal qu'il avait commis, et qui va revenir en disant « Écoute, moi j'étais ok pour être exilé parce que tu voulais donner une éducation à ma fille, maintenant ma fille est morte, donc je suis pas vraiment super content du deal qu'on avait fait. » Voilà.
Et chez Gabriel ?
Alors chez moi c'est un peu compliqué dans la mesure où je vais faire un truc qui ne se fait pas du tout, je vais être obligé de spoiler mon livre. Parce que je ne peux pas parler de vengeance sans spoiler mon livre, c'est une catastrophe, mais je le fais quand même. Le dernier bouquin que j'ai écrit c'est Eternia, c'est en deux tomes. Il s'agit d'un gladiateur qui se retire après une vie de loyaux services, il se retire invaincu. Et il va élever ses gamins dans une ville où a priori il n'y a pas de violence et tout se passe bien, c'est très luxueux, c'est très beau. Manque de peau sur le chemin, et là je spoil, faites comme si vous n'avez pas entendu, parce que c'est le coup de théâtre du début du roman. Et il part avec ses gamins qu'il ne connaît pas, avec qui il ne s'entend pas extrêmement bien, avec ses amis, ses domestiques, ses servantes, etc. Et tous ces gens-là vont être massacrés, à la page 30 quelque chose, par de façon complètement fortuite, parce qu'il a fait quelque chose, il a marché sur les pieds de quelqu'un, il n'aurait pas dû. Et là on rentre dans une mécanique, qui est une mécanique de western, qui est vraiment la mécanique de « on a tué ma famille, je vais me venger ». Alors, la vengeance, quelque part, c'est un peu une solution de facilité pour l'auteur et pour tous les auteurs du monde. Et c'est presque dans tous les romans d'aventure, dans tous les westerns, dans tout ce que tu as cité tout à l'heure et bien plus. C'est vraiment la mécanique de je me mets à la place de ce type-là et je me dis on a massacré ma famille, je vais les retrouver tous et je vais les faire payer. En gros, c'est ce qui se passe dans Eternia. C'est un peu ce qui se passe dans le Puits des Mémoires, mais je ne vais pas vous le spoiler aussi, parce que ça ferait beaucoup de spoil. Mais voilà, le principe est là.
Mais donc la vengeance, ben, c'est la revanche contre quelqu'un qui a tué des proches, que ce soit la famille, que ce soit des amis, etc. C'est un peu la justice privée. Or, la justice privée, elle est un peu bannie de nos législations. Alors, comment, Samantha, expliquez-vous que les auteurs de fantasy adorent se commettre dans la justice privée tout au long des aventures de leur héros?
Bah déjà, ce que disait Gabriel, c'est sûr qu'en termes de motivation pour des personnages, la vengeance, hein, c'est quelque chose d'assez simple. Ça permet de faire voyager nos personnages, de leur faire plein de rencontres, etc. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est en train de se nourrir aussi d'une psychologie dans laquelle il est vrai que dans la fantasy, il y a souvent une certaine violence quand même, des combats, on va se retrouver... Voilà, face à un certain nombre d'épreuves, et la vengeance pour ça, c'est souvent, comment dire, un sentiment tellement puissant et tellement destructeur qui va nous permettre d'amener le lecteur dans des zones qui ne sont pas forcément très confortables. Dans le cas d'Oraison, Eline, qui est une jeune fille, elle va complètement se métamorphoser psychologiquement parce qu'elle est aveuglée par cette vengeance, et ça va la pousser évidemment en plus à aller creuser et dénicher des choses pas forcément très très reluisantes sur le gouvernement. Donc c'est en effet aussi une bonne mécanique pour faire avancer une histoire. Mais au-delà de ça, je dirais que ça peut aussi tout simplement être la base de la psychologie du personnage qu'on est en train de construire, puisque c'est très intéressant de voir, à mon sens, dans le cas d'Oraison, l'évolution de ces deux jeunes femmes et comment elles vont vraiment se transformer à travers ça.
Olivier, c'est pas amoral de baser son récit sur la vengeance?
C'est Olivier qui pose la question.
Bien sûr, c'est amoral, mais on est amoral, alors ça va. En fait, en introduction, tu as cité énormément de références par rapport à la vengeance qui n'étaient pas tous de la fantasy. C'est vrai qu'il y a énormément de films, énormément d'histoires, énormément de séries, énormément même de pièces de théâtre qui se basent sur la vengeance. Et je pense qu'on est tous fascinés justement par cette vengeance, par cette idée de justice privée. Et c'est vrai que de la même manière que pour les crimes passionnels par exemple, il y a toujours ce côté ambivalent de dire « Ah bah c'est quand même très mal ce qu'il fait ». Mais en même temps, quelqu'un qui va rien faire, on va dire « Ah bah c'est pas bien qu'il fasse rien ». Donc il y a vraiment ce côté-là qui va être retrouvé. On a toujours ce côté un petit peu ambivalent en disant « Bah on est contre cette justice privée, mais on trouve ça très bien quand ça se passe à l'écran ou dans un livre. Il y a une série que j'aime beaucoup, une série très grand public, hein, très, une série de films qui s'appelait Taken, où en fait, à chaque fois, le thème du film, c'est un père, sa fille se fait enlever ou sa femme se fait enlever. Tous les gens autour de lui se font enlever de manière générale. C'est voilà. Et le film, c'est je vais me venger, je vais les sauver et je vais me venger. Et je pense aussi qu'il y a un autre mécanisme très important, c'est que quand il nous arrive quelque chose comme, par exemple, notre fille meurt ou notre famille meurt, bah, il y a deux manières de réagir. La première, c'est la dépression, c'est la déprime. C'est, on a perdu tout ce qui était cher à nos yeux, donc on s'effondre. Et je pense que des gens vont se lancer dans la colère et dans la vengeance, justement pour combattre aussi, pour ne pas être déprimé. C'est-à-dire, mieux vaut la colère que la tristesse, mieux vaut la colère que la déprime. Et c'est un mécanisme très puissant qu'on peut voir à l'œuvre d'ailleurs dans, bah, dans beaucoup de livres dans beaucoup d'histoires.
Gabriel, quand tu écris une histoire de vengeance, tu es en colère ?
Non, paradoxalement non, parce qu'on est un peu des escrocs, c'est-à-dire qu'on ne vit pas ce qui arrive à nos personnages. Mais le principe de la justice légale dont tu parlais tout à l'heure, elle a un problème, c'est qu'elle n'est pas du tout spectaculaire. Et donc si à l'issue de 2-3 tomes de recherche, de lutte, de combat, le méchant il est arrêté par la police et mis en prison pour 20 ans, c'est pas super spectaculaire. C'est un petit peu déceptif. Et du coup, l'empathie, elle joue d'un point de vue presque primal, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est ce qu'on se dit quand on voit des meurtres, je sais pas, des trucs terribles, des meurtres d'enfants, des viols, etc., etc. La première réaction en général de Monsieur Tout-le-Monde, c'est de dire « Ah, moi, si j'étais lui, je le tuerais. » Et pas du tout, je le ferais arrêter par la police. En fait, c'est la même chose, sauf qu'en fiction, c'est ouvert, c'est permis et c'est gratuit. Donc on peut effectivement assouvir ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait voir faire dans la vie, parce que finalement, ça coûte pas grand-chose, c'est extrêmement défoulant et... ça dédouane de tout ce qu'on a comme poids de... comme barrière sociale, finalement. Parce que la barrière sociale fait que si quelqu'un vient assassiner ma famille, a priori, je n'irai pas lui crever les yeux moi-même. Je pense que non. Alors qu'en fiction, on peut se permettre et ça défoule.
Est-ce que justement le succès de ces histoires de vengeance dans vos livres et le succès, par exemple, de ce débat, on voit qu'il y a beaucoup de monde. Bravo pour la lumière. Bravo pour les micros.
Oui. Encore mieux là.
Allez, on va pouvoir susurrer maintenant.
Merci.
Je sais pas si ça marche.
Alors donc, merci aux techniciens qui ont rétabli cela. Est-ce que justement l'accueil et le succès public de ces histoires n'est pas une espèce de plaisir par procuration ? Est-ce que les gens ne prennent pas plaisir à suivre une histoire de vengeance parce qu'ils ne peuvent pas le faire dans la vraie vie, Samantha ?
Très sûrement, de toute façon, la vertu cathartique de la fiction, elle est plus à prouver. Je pense qu'on a tous besoin, à un moment donné, de se plonger dans une histoire, pas forcément en se disant « on l'a vécu, on va le vivre », mais pour partager parfois des expériences qu'on n'irait pas du tout vivre nous-mêmes. Je pense qu'en plus, dans un univers de fantasy, par rapport à cette idée-là de vengeance privée, en quelque sorte, on est aussi dans des univers très différents, où les lois ne sont pas forcément, d'ailleurs, les mêmes que les nôtres. Donc, ce qu'on fait à nos personnages, on peut être aussi dans une société assez barbare dans laquelle la vengeance peut même être un mode de fonctionnement, en quelque sorte.
Olivier, même question. Frustration des lecteurs qui ne peuvent pas se permettre eux-mêmes d'assouvir leur pulsion de vengeance et qu'ils le font par procuration.
Vous êtes frustrés, c'est ça. je pense que je rejoins ce que disait Gabriel tout à l'heure sur le côté grand spectacle. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est intéressant, ce qui nous plaît, c'est les émotions brutes. Plus les personnages ont d'émotions, plus on arrive à les ressentir. Parce que c'est vrai que forcément, il y a une barrière entre les personnages du livre et le lecteur, mécaniquement. Et donc, on a besoin que les personnages aient vraiment des émotions puissantes pour réussir à les faire ressentir au lecteur. Donc les émotions puissantes, ça peut être de l'amour dévorant, de l'amour passionnel. C'est vrai que, par exemple, dans les histoires d'amour dans les livres, c'est rarement de l'amour très tiède. Parce qu'on s'en fout, enfin, c'est pas très... Non, mais voilà, c'est pas forcément ça qui va nous passionner. Donc c'est souvent de l'amour passionnel qui va tout consumer. De la même manière, quand c'est de la haine viscérale. Et c'est vrai que la vengeance, c'est quelque chose qui est un mécanisme très puissant. Et en plus, compréhensible par tous. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les gens qui lisent les épées de glace, qui voient ce père qui veut venger la mort de sa fille, je vais y arriver... le père, il est détestable. Et pourtant, beaucoup de lecteurs l'adorent, parce qu'ils le comprennent. Ils disent ah bah oui, moi franchement, si je tuais ma fille, bah moi aussi je prendrais mon épée, et voilà. Et il y a vraiment cette logique derrière qui est.
Oh non,
non, là vous faites exprès.
Bien essayé, quoi.
Continue.
Et il y a vraiment cette logique derrière qui est de dire que oui, plus l'émotion est puissante, plus on a de facilité à la faire ressentir au lecteur également.
Non, je suis le seul qui n'ait pas parlé au micro. C'est le destin. Non, en fait, la vengeance, c'est une inversion du rapport de force. C'est-à-dire qu'au début, généralement, le héros ou la personne qui est victime a en face de lui quelque chose de relativement inaccessible, sinon le bouquin n'est pas très sympa. Et petit à petit, le rapport de force s'inverse. Et c'est le côté jouissif, finalement, pour le lecteur, de se dire, à partir de maintenant, le méchant, entre guillemets, va voir revenir, finalement, tout ce qu'il a posé, et le rapport de force s'inverse. Ça marche aussi à l'inverse, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la vengeance qui se tourne contre le héros. Je cite, en toute immodestie, mon dernier bouquin, mon dernier thriller, qui s'appelle « N'oublie pas mon petit soulier », qui est une histoire de vengeance stupide. C'est-à-dire que le héros fait un truc qu'il n'aurait pas dû faire, il tue par accident une personne qu'il n'aurait pas dû tuer, il se retrouve avec une vendetta albanaise sur le dos. Et c'est vraiment la vengeance qui lui revient dans la gueule alors qu'il ne l'avait pas du tout prévu. Et la vengeance, du coup, c'est vraiment l'inversion du rapport de force. Ce type qui était en position de force, de séducteur, etc., etc., se retrouve avec toute la mafia sur le dos et il commence à flipper de façon horrible. Donc quoi qu'il arrive, c'est vraiment la mécanique de, à partir de maintenant, celui qui a fait quelque chose de mal va voir la roue tourner. Alors, en combien de tomes, je ne sais pas, mais en général, c'est comme ça que ça marche.
On dit que...
Parce que j'ai fini de parler, merci.
C'est bien. Allez, Gabriel, ajoute quelque chose. Fais-toi plaisir.
Voilà. Ça va être compliqué.
C'est un signe.
Il faut que tu lâches le micro.
C'est un signe.
Oui, donc...
Je suis quelqu'un de naturel.
Bon, je vais définitivement couper la parole
voilà,
à Gabriel.
Je pense
qu'on va m'écouter un petit peu. Ouais. Et... On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, c'est-à-dire qu'elle prend du temps, la vengeance, à être assouvie. Est-ce que c'est pour ça que vous la prenez aussi? Parce que ça vous permet de faire des histoires qui ont des pages et des pages, et même en plusieurs tomes. Samantha?
Pour ce que disaient Olivier et Gabriel, oui, on a besoin de ce côté spectaculaire et puis d'installer les choses au fur et à mesure. Mais en plus, pour citer une grande histoire de vengeance, si on prend Game of Thrones, bon, je pense qu'on a tous regardé, je pense que la jubilation du lecteur... On l'a tous connu à certains moments de la série, on va dire, parce qu'en effet, l'accumulation de ce qui a été fait, à un moment donné, se retourne contre la personne. Donc il y a cette attente-là, et ce qui est intéressant, c'est comment on va jouer avec les attentes du lecteur. C'est-à-dire, est-ce qu'on va satisfaire complètement ses attentes, ou est-ce que parfois, on va, justement, pour ne pas être dans l'attente type de « il va se venger, il va réussir, et il y aura une justice quelque part qui va s'appliquer », comment on va jouer avec cette justice, et comment on va pouvoir installer des situations où on va donner de la surprise. Puisque pour moi, je trouve que la fin, ce qui est le plus difficile quand on atteint ce climax de la vengeance, c'est qu'à la fois une bonne fin, elle doit être évidente et en même temps elle doit être surprenante. Ce qui sont deux choses qui sont assez difficiles à faire coïncider. Donc dans une vengeance, ça s'applique.
La longueur.
Oui, c'est vrai que de manière générale, quel que soit le thème qu'on travaille, c'est toujours plus intéressant de traiter ça dans une... Alors, il y a une raison pour laquelle la trilogie et le format reine, le format roi... vous n'avez pas entendu, j'avais pas de micro. C'est, voilà, était le format roi en fantasy. C'est vrai que ça permet d'installer une histoire de manière générale sur la longueur. Et c'est vrai que pour revenir sur les côtés spectaculaires dont on parlait, si une fille se fait tuer, le père arrive et tue le meurtrier et que ça fait 3 pages, c'est pas forcément très intéressant. Donc le côté effectivement disproportionné, c'est-à-dire un homme face à un empire, dans mon cas un homme face à une institution, un homme face à une mafia, et comment est-ce qu'on va s'en sortir? Quelquefois d'ailleurs, quand il y a cette fameuse inversion, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on va arriver à se venger, mais est-ce qu'on va arriver à la survivre à la vengeance des autres, et est-ce qu'on va arriver à survivre aux conséquences de nos actions. Donc, c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que ça permet de faire des histoires qui sont complexes, qui sont imbriquées, avec un sujet qui à la base est très simple, qui est de dire, c'est la loi du talion, hein, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est une des lois les plus basiques de l'humanité, tu m'as fait mal, je te fais mal, et qui au final peut donner des histoires qui sont beaucoup plus complexes.
Toi aussi, Gabriel, tu as trois tomes pour le Puits des Mémoires. Ouais. Eternia, c'est combien?
C'est deux. C'est deux.
Et puis.
La Maîtresse de Guerre, c'est un one shot.
Oui. Et puis là, le dernier qui est pas tellement fantasy, ça va faire plusieurs tomes aussi.
C'est un seul tome.
Un seul.
Ouais. Mais alors la longueur, pour le coup, ça peut être un petit peu pénible pour le lecteur parce qu'il ne sait pas effectivement si le méchant va prendre ce qu'il est censé prendre. Je m'en suis sorti avec une assez mauvaise réputation de sadisme. Je suis super désolé, je m'excuse. Et j'ai tendance en fin de série, en fin de cycle, à ne pas forcément punir tous les méchants et les faire mourir tous dans d'atroces souffrances parce qu'ils ont fait des trucs horribles. Parce que somme toute, dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc c'est un petit peu en demi-teinte. J'ai failli me faire lyncher par quelques lecteurs, lectrices, tout ça. Donc voilà, pour ce genre de choses, parce qu'il arrive qu'en fin de cycle, mes méchants soient encore là où ils sont censés être, sur leur trône ou ailleurs. C'est réaliste, ça peut être très frustrant et à la fois ça prend un petit peu le contre-pied de la mécanique classique qui est, on sait pertinemment que le cow-boy à la fin il va flinguer tout le monde parce qu'il est très fort.
Et puis ainsi Gabriel est définitivement amoral.
Merci. Nous avons la réponse.
D'où le fait que le micro se coupe à chaque fois que je dis.
Voilà.
Mais en fin de compte vos héros ils arrivent à se venger. Est-ce que la vengeance pour le héros est en fin de compte le point final ou bien c'est l'itinéraire qui compte?
Alors oui, certains héros arrivent à se venger. Comme Gabriel, j'ai une réputation peut-être un petit peu moins que toi sur certains sujets. Mais bon, j'ai tendance aussi à tuer parfois mes personnages principaux. Donc voilà, et je vois rapidement qui a terminé mon roman en raison, puisqu'en général, la même réaction, c'est « Pourquoi vous avez fait ça ?» Donc en général, je suis au courant qu'ils ont terminé le roman. Mais en effet, il suffit... On peut pas, si on a une volonté un peu de réalisme comme ça, et je pense que tous les trois, dans le point commun de notre fantasy, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose... Alors, c'est pas la question de la moralité, mais plutôt de ce réalisme, justement, où par observation, on est peut-être dans une fantasy moins manichéenne, et on a envie de donner des nuances, en fait, de gris sur tous ces personnages. Donc il y a des moments où, en effet, certains sont punis, d'autres non, et la vengeance peut être la finalité, on va dire, le climax, mais évidemment, comme on le disait, quand on se venge et qu'on entreprend ceci, il y a certaines conséquences. On fait des actes qui ne sont pas forcément louables pour certains de nos personnages et eux aussi peuvent payer pour ça.
Bah, effectivement, je trouve ça vraiment intéressant, cette notion de moralité, cette notion de réalisme. Et du coup, le fait que les personnages ne sont pas tout noirs ni tout blancs, finalement, même les pires... C'est très rare, objectivement, dans la vie, même si vous regardez autour de vous, c'est très rare les gens objectivement et 100% méchants juste pour le plaisir d'être méchants. Alors, il y a peut-être le gars de votre bureau de poste qui vous fait patienter un peu de temps pour aller poser votre courrier, dédicace à mon bureau de poste. Mais de manière générale, en fait, il y a toujours une raison, une logique derrière. C'est parce que la personne vous en veut, parce que la personne vous jalouse, parce que la personne aurait envie de quelque chose, parce que la personne est malheureuse. Enfin, il y a toujours logiquement une raison derrière les actes des gens, sinon on les appelle psychopathes ou fous et on les dédouane de responsabilité. Donc c'est vrai que dans la vengeance, très souvent, on a des personnages. Là, le personnage de Rex, c'est quand même un personnage qui n'est pas forcément ultra sympathique, qui a commis des génocides en toute simplicité. Et en fait, on arrive quand même à vibrer pour lui parce qu'à côté de sa personnalité, il y a le fait que sa fille lui a été enlevée. Et ça, on peut tous le comprendre. C'est-à-dire que finalement, c'est pas... oui, les méchants peuvent avoir une âme, les gentils peuvent se fourvoyer. Et je ne sais plus du tout ce que je voulais dire,
on
mais je crois que j'avais une conclusion.
Erreurs.
Merci. Merci, voilà.
Gabriel, est-ce que c'est la vengeance qui compte ou les moyens d'y arriver?
C'est les moyens d'y arriver et elle ne va pas forcément au bout. C'est-à-dire que la mécanique classique de la vengeance, c'est la mécanique du cow-boy, encore une fois. Il ne va pas passer par quatre chemins, il va flinguer tout ce qui bouge. Si on va un peu plus loin, on rentre un peu plus dans les demi-teintes, en cours de vengeance, on peut s'apercevoir que son intérêt personnel va pâtir de l'aboutissement de la vengeance. C'est ce qui peut arriver à certains de mes personnages, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais se dire que finalement, si on va au bout, ça va être une catastrophe pour tout le monde, alors que si on commence à dealer avec des gens qu'on était censé abattre, c'est peut-être plus intéressant. Donc en fait, on peut rentrer dans un conflit d'intérêts, on peut rentrer dans un moment où on se retrouve finalement au pied du mur en se disant est-ce que je vais choisir la raison ou est-ce que je vais assouvir là pendant 5 minutes le truc qui va me faire du bien. C'est assez compliqué finalement. Donc il peut y avoir certains personnages qui vont aller vers vers le déchaînement total en se disant c'est maintenant je vais le faire et je vais aller mieux. Et d'autres qui vont se dire, bon, après tout, maintenant que je suis allé jusqu'au bout et que le type en face, il est mort de trouille, je vais dealer avec lui et ça se trouve, je m'en sortir un peu mieux.
Beaucoup de personnes imaginent qu'elles se sentiront mieux après s'être vengées, mais apparemment, la littérature scientifique dément cette idée. Se faire justice soi-même ne serait pas une façon de se sentir mieux, une façon de passer à autre chose. Au contraire, quand la justice est indirecte, vient donc d'une justice sociale et pas d'une justice privée, il paraît que le fait de passer à autre chose est vraiment plus aisé et plus facile. Est-ce que vos héros se sentent mieux, en fin de compte, sur le chemin de leur vengeance, Samantha ?
Eh bien, je vais approuver la littérature scientifique, du coup. Mais en effet, ce qui est très intéressant et ce qui était dit tout à l'heure, c'est ce côté pulsionnel. Et Olivier a justement dit ça. Comment on réagit face à un choc traumatique ? Bon, bah voilà, on peut déprimer, voilà, ou bon, bah prendre son épée et aller tuer tout le monde, manifestement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que bon, dans mon roman, Nouni et Eline ont toutes les deux des réactions opposées. Donc on suit vraiment le cheminement sur plusieurs années de ces deux jeunes femmes, celle qui choisit la vengeance et celle qui justement attend que la justice sociale fasse son effet. Et honnêtement, psychologiquement, il y en a quand même une qui s'en tire un petit peu mieux que l'autre. Et on sent qu'en fait, même au moment où la vengeance s'est accomplie pour Eline, il y a quelque chose, c'est pas qu'elle a perdu son âme ou quoi, mais elle s'est tellement blessée elle-même en chemin pour atteindre cet objectif qu'il n'y a pas de rédemption ou il n'y a pas de soulagement en fait. C'est qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de pulsionnel, une colère aveugle qui est presque retournée contre soi à un moment donné.
Olivier, tous vos héros qui veulent se venger trouvent-ils une certaine sérénité, une tranquillité d'esprit ?
On revient sur ce qu'on disait effectivement sur le fait que quand il nous arrive quelque chose de vraiment un vrai traumatisme, soit on va basculer dans la colère, d'ailleurs une colère qui peut être complètement non dirigée, ça peut être pourquoi moi par exemple, mais en tout cas on va basculer dans la colère ou alors ça va être dans la tristesse, le désespoir. Et du coup la colère c'est bien parce que ça nous permet d'avancer, ça nous permet de bouger, ça nous permet de nous lever le matin, mais une fois que la vengeance est accomplie, une fois que l'aboutissement de cette colère, que cette colère trouve un aboutissement, on se retrouve vide, c'est-à-dire que finalement on n'a plus la colère pour nous motiver et on se retrouve de nouveau au premier stade. On parlait de littérature scientifique, je pense que vous connaissez tous les fameuses phases du deuil, etc. J'espère en tout cas, parce que moi je m'en rappelle plus, je peux plus vous les donner, mais on passe par un certain nombre de phases lorsqu'on fait son deuil.
Tristesse, colère, acceptation,
exactement, elle le dit très bien.
Merci.
Je suis en aide. Moi je suis l'intello, on a parti les rôles.
Voilà.
Et
Gabriel, c'est celui qui fait péter les micros. Là, chacun
on se partage les tâches.
Et c'est vrai qu'effectivement, le problème de se laisser envahir par la colère et de réussir quelquefois ça peut prendre des années, quelquefois il y a des gens qui ont mûri, et je ne parle pas uniquement de la littérature, quelquefois on a des procès de personnes qui en fait ont mûri pendant des années des vengeances ou des projets de vengeance. Et au final, on se rend compte que, une fois que le projet est accompli, c'est vrai qu'il n'y a plus cette colère qui va nous pousser, et donc on va se retrouver de nouveau au début de l'échelle de l'acceptation, et on va de nouveau repasser par toutes les étapes. Donc clairement, il y a toujours une sensation un petit peu de vide en se disant, ok, d'accord, maintenant, qu'est-ce que je fais ?
Gabriel, tes héros, ils sont apaisés sur le chemin de leur vengeance ?
Bon, déjà, je noterai pas qu'Olivier, en fait, c'est la colère qui le pousse à se réveiller le matin. Bon, en fait, ça explique des choses. Déjà, il a mangé énormément tout à l'heure. Est-ce que ça les a apaisés ? Je sais pas. En ce qui concerne Eternia, très honnêtement, non. Je peux pas spoiler, mais le personnage qui essaye de se venger, il est vraiment victime de sa vengeance, pour le coup. Mais bon, il y a un jeu de miroir derrière qui est un petit peu complexe. En ce qui concerne le puits des mémoires, ils sont peut-être apaisés, probablement parce qu'ils sont pas allés justement au bout de la vengeance sanglante. Il y a différents types de vengeance, différents niveaux de vengeance, et quand on s'aperçoit finalement qu'on tient les rênes et qu'on tient la personne en face, ça peut être beaucoup plus efficace que de le rouer de coups de hache jusqu'à qu'il ne reste plus qu'une bouillie. Donc je pense que certains personnages s'en sortent mieux. La maîtresse de guerre est aussi une histoire de vengeance et je pense qu'elle s'en sort pas mal à la fin aussi, mais encore une fois c'est en demi-teinte. J'ai pas l'impression d'avoir un personnage qui soit allé au bout de la mécanique du western, c'est-à-dire le méchant je vais le plomber. Donc je ne sais pas vraiment ce qui se passerait. Je ne suis pas tellement d'accord avec le fait que, passé la vengeance, on revient au stade creux. J'en suis pas si sûr. Mais je ne l'ai pas vécu.
Ça dépend des personnages,
ouais, c'est sûr. Je l'ai pas vécu. Donc si quelqu'un se fait massacrer sa famille, etc., mettez-nous un petit truc sur Facebook. Pardon.
J'ai tué mon frère, ça va beaucoup mieux. Voilà.
Et on va se retrouver avec des problèmes, là, vous vous rendez pas compte.
J'ai trouvé une phrase de Walter Scott, l'auteur de Ivan Noé, Quentin Duroir et d'autres romans KPP. La vengeance est le plaisir des dieux, et s'ils se la sont réservée, comme nous le disent les prêtres, c'est parce qu'ils la regardent comme une jouissance trop précieuse pour de simples mortels. Que penses-tu de cette phrase ?
Ah oui, j'ai le rôle de l'intello là, oui, alors attendez, vite. Non, moi,
c'est parce que tu as toujours été la première à qui je pose la question.
Alors, bah, je pense en effet que bah, ça rejoint peut-être cette idée de justice privée où on dirait que la vengeance n'est pas forcément réservée à nous, donc en tout cas elle n'est pas légale, mais si on prend le nombre de cas de vengeance personnelle qu'on peut croiser, et en fantasy on extrapole parce qu'il s'agit de meurtre, mais je pense qu'une vengeance, elle peut prendre plein d'autres formes que la forme violente. Voilà, une vengeance psychologique. On est tous, je pense, en permanence confrontés aux différentes pulsions de la nature humaine. Et là, dans un roman de fantasy, on va extrapoler jusqu'à ces actes violents et peut-être le fait de tuer. Mais j'ai envie de dire que finalement, tuer quelqu'un, c'est peut-être pas que le tuer physiquement. Il y a plein de gens qui sont mis à mort. Par exemple, si on prend le principe d'exclusion, je trouve que c'est toujours une petite mort quand il y a un groupe et qu'on quitte ce groupe, par exemple, ou quelque chose comme ça. Il y a plein de choses, à mon avis, sur la vengeance et qui peut être transformée à ce niveau-là. C'est
ça. On sent une certaine jouissance quand elle dit ça.
Non, mais c'est pas ça, mais je trouve que c'est vrai. Je pense qu'il y a plein de façons de mourir, en fait. Et que c'est pas que mourir physiquement.
Olivier, c'est parce que tes héros sont des demi-dieux qu'ils peuvent assouvir la vengeance si on écoute Walter Scott.
Alors si on écoute Walter Scott, oui. Si on ne l'écoute pas. Déjà, il y a effectivement une partie, c'est que très souvent, on en parlait au début, c'est que très souvent, il y a un décalage. C'est-à-dire que très souvent, on veut se venger, pour qu'il y ait une bonne histoire, on veut se venger de quelqu'un qui est plus puissant que nous, que ce soit au stade, au sens physique, que ce soit au sens d'une organisation, quoi que ce soit. Donc pour réussir à accomplir cette vengeance, il faut réussir à reprendre la main. Et pour reprendre la main, soit il faut des capacités, des compétences particulières. On parlait de demi-dieu. Là, en l'occurrence, c'est un procédé très facile en fantasy, mais c'est vrai que mon héros est quasiment imbattable à l'épée. Ça aide un petit peu quand on veut accomplir une vengeance. Mais ça peut être également avec du temps qui va être employé, des moyens, une machination qui va être mise en place, une combinaison. Et puis c'est vrai qu'en fait, en y réfléchissant, nous tous, dans la vie de tous les jours, on se venge toujours. Alors, on ne tue pas les gens. Mais je suis sûr que...
Ah bah Gabriel, confession.
Ah là Gabriel, mais c'est Gabriel. C'est... Le micro lui voulait du mal, paf. Et c'est vrai que je ne sais pas si parmi vous, certains par exemple sont blogueuses, youtubeuses ou quoi que ce soit, mais vous avez sûrement déjà eu un auteur qui a dit « j'aime pas ta critique, t'auras plus jamais de livre ». Il y a toujours
Les petites vengeances d'Olivier.
Mais moi, j'ai pas de mauvaise critique, alors ça va.
Voilà,
ça, c'est la vengeance d'Olivier. Ouais.
Mais c'est vrai que vous avez ce genre de ce qu'on appelle justement
profondément humain.
Ce qu'on appelle les vengeances mesquines, qui vont être vraiment à chaque fois on va pas du tout tuer des gens, on va pas du tout. Ça arrive très rarement, en tout cas dans notre société très policée. Mais par contre, les vengeances qui vont être effectivement des vengeances d'exclusion, des vengeances tout simplement des vengeances, on appelle ça le bitchage. Mais le plaisir de parler dans le dos des gens.
C'est pas nous ça le bitchage.
C'est pas nous le bitchage.
Mais je pense surtout, c'est ce que tu disais, c'est qu'on ramène ça à la fantasy où c'est très extrapolé, mais dans le fond. La violence psychologique, elle peut être tout aussi horrible. Il y a plein d'histoires de vengeance où c'est pas qu'une histoire de meurtre. Ça peut être, je sais pas, je pense à un film comme ça, mais Respire, là, qui était sorti, où on voit la perversité, où il se passe quasiment rien dans ce film, mais tout est très intérieur et on se dit, oui, la vengeance peut prendre tout un tas de formes. Et bon, bah là, en fantasy, en l'occurrence, bon, nous, apparemment, on est un petit peu violent, hein, mais on le montre, je pense, dans des univers de fantasy plus facilement. Par ce rapport, quand tu dis demi-dieu, par des gens qui ont des pouvoirs, par des gens voilà, qui sont invincibles, ou des choses comme ça.
Chez toi aussi, ils ont des pouvoirs ?
Non, ils n'ont pas vraiment de pouvoir. En fait, ils peuvent avoir un petit peu, ils peuvent être un petit peu plus costauds que la moyenne, mais c'est pour le spectacle. Parce que, très honnêtement, Walter Scott, je l'adore, mais pour le coup, je ne suis pas du tout d'accord avec son approche qui sacralise un petit peu la mécanique de la vengeance. On peut être un petit garagiste, petit, gros et moche et se venger. Donc là, pour le coup, bon, nos héros, ils sont forcément un petit peu plus spectaculaires que la moyenne, sinon pour le lecteur, c'est quand même pas très glamour. Mais finalement, il suffit de rien. Ce qui est difficile, c'est pas tellement de se venger, parce que ça, c'est un fusil de chasse et un parking. Mais ce qui est difficile, c'est de se venger intelligemment, c'est-à-dire de s'en sortir, de pas se retrouver en prison, de s'en sortir avec les honneurs, etc. etc. Donc, dans un roman, en général, ça se passe mieux que dans la vie. Dans la vie, on finit pratiquement tout le temps en prison, quand on a un vieux gros garagiste et parking, tout ça. Mais je pense pas qu'il faille être un demi-dieu ou quoi que ce soit d'autre, il faut juste y croire. Et il faut être mu par la fameuse colère qui pousse Olivier à se lever le matin.
Ça t'a marqué, ça.
Ouais, je dis, mais il y a des trucs qui s'expliquent. Je voyais qu'il était en chocolat tout à l'heure.
Mais puisque la vengeance est quand même très présente dans la fantasy, est-ce qu'il n'y a pas un danger de voir ce topos, comme on disait tout à l'heure, devenir un cliché?
Ah bah, le cliché, le stéréotype, hein, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'on reprend forcément toujours ces motifs-là. Mais c'est le traitement qui va en faire quelque chose de différent. Donc oui, c'est toujours un risque. Après, on va pas dire qu'on a réussi. C'est au lecteur de juger.
Gabriel,
je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. À la fois, c'est vraiment une mécanique facile, encore une fois, la vengeance. Donc, je crois que c'est une sorte de vaste caricature. Comme dit Samantha, c'est la façon de le traiter qui va effectivement changer. Mais en même temps, ça permet de prendre le lecteur par la main et ça permet de parler à ce qu'il a de viscéral, finalement, qui est son sentiment et de protection pour les siens et de protection pour ce qu'il a et de peur, finalement, de ce qui pourrait lui arriver. C'est d'une projection... On a tous finalement la même projection de mon mec, ma femme, mon fils n'est pas rentré à telle heure, mon Dieu, il est mort, il s'est fait écraser. C'est un peu ça. Donc on projette sur ce genre de terreur. Dans les livres, les terreurs en question commencent à devenir extrêmement concrètes. Et à ce moment-là, on prend le lecteur par la main en lui disant « Écoute, voilà, tiens, voilà une épée, va te venger. Si ça t'arrivait, ce serait merveilleux. »
Olivier, peur du cliché ?
Oh non, pas peur du cliché, non.
Peur de rien.
Pas du cliché. Des araignées. C'est
la vengeance de l'araignée.
Non, je pense que effectivement, c'est tout ça, c'est des mots pour combler parce que je suis en train de réfléchir. Dans la vengeance, en fait, il y a finalement des thèmes qui reviennent tout le temps. Et pourquoi est-ce qu'ils reviennent tout le temps? Parce qu'ils plaisent, tout simplement. Donc c'est vrai que nous, on est là aussi pour faire des histoires qui plaisent, des histoires qu'on aimerait lire et des histoires qu'on aime écrire. Et on tombe. Moi, il y a un thème. Alors ça, c'était pour le noir et ma couleur pour ma série, mais finalement, c'est un thème qu'on retrouve dans tous les mangas, sans exception, les mangas adressés à un public plutôt masculin, enfin ce qu'ils appelaient les voilà, merci, shonen. Que ce soit les fameux Dragon Ball, Dragon Ball Z de mon époque, les One Piece, etc. C'est le principe de dire le héros n'est pas forcément le plus fort, mais ce qui va le différencier des autres, c'est qu'il tombe, il se relève. Alors, la caricature, c'est le fameux Les Chevaliers du Zodiac, où je ne sais pas si vous regardiez ça, mais à chaque fois le héros. Hey, on a parlé de Walter Scott, j'ai le droit de parler des Chevaliers du Zodiac. Okay. Ah,
c'est la même chose.
Voilà, c'est la même chose. Mais à chaque fois, et pour des références plus récentes, vous prenez One Piece, vous prenez tout ce que vous voulez. Tous les héros, à chaque fois, ça ne va jamais être les plus puissants, parce que si c'est les plus puissants, ce n'est pas intéressant, il n'y a pas d'histoire. Mais c'est des héros qui, en fait, vont se faire éclater, si j'ai l'expression, vont se faire battre, vont se relever et vont finir par gagner. Et ça, c'est effectivement un tropos qui marche, qu'on retrouve dans quasiment toutes les histoires, qui fait que les héros sont attachants, parce qu'on aime bien les héros comme ça, on aime les héros qui se prennent des coups et qui finissent par se relever. Et finalement, la vengeance, c'est ça aussi, c'est-à-dire que le héros, il s'est pris un coup aussi plus violent qu'on pourrait l'imaginer. Il a perdu, sur les histoires de vengeance, il peut avoir perdu sa famille, il peut avoir perdu un bras, enfin, il y a plein de choses qu'il peut avoir perdu. Et ouais, c'est vrai. Et je trouve qu'ils ne me soutiennent pas énormément.
Si,
quand même.
Ah, si, à 100%.
Voilà. On a tout perdu, non? Voilà.
Et à côté de ça, ils vont effectivement réussir à accomplir cette vengeance et à réussir finalement à ce fameux tropos de « je me suis pris un coup, mais je me relève ».
Bah, pour aller dans ce que tu dis, comment s'appelle le film avec DiCaprio, le dernier qui est sorti?
The Revenant. Non.
Oui, bah, The Revenant, honnêtement, le type, il lui arrive quelque chose de terrible et pendant 3 heures, il rampe. Il rampe, il fait que ça. Il rampe, il grogne et il rampe. Et il y a quand même des gens pendant 3 heures, ils attendent qu'un truc, c'est qu'ils se vengent. et on le regarde ramper pendant 3 heures. Bon, je suis pas rentré dedans, mais quand même, il faut quand même le faire. C'est vraiment le film sur la vengeance par essence où il ne se passe rien que ce type qui rampe pour se venger.
Oui, mais il rampe bien, c'est DiCaprio.
Oui, il rampe très bien.
Il grimace et tout, il a plein de problèmes. Il se fait bouffer par des ours, des oies, des lapins, des trucs comme ça, c'est horrible. Et à la fin, il se mange.
Et à la fin, il a un Oscar surtout.
Son premier.
Son premier.
Mais justement, Gabriel, pour dépasser cet éventuel cliché, comment est-ce qu'on réinvente alors ces histoires pour ton prochain roman, quoi?
Ah, réinventer la vengeance. Alors, honnêtement, mon prochain roman, qui est un roman de fantasy, c'est vraiment un western. Et alors, pour le coup, je ne réinvente pas du tout la vengeance. Je tape vraiment dans la vengeance la plus viscérale, la plus profonde et la plus classique. Donc, pour le coup, c'est mal choisi. Mais je pense qu'on peut réinventer ça d'une certaine façon, pas tant que ça. Pas tant que ça, parce que c'est une mécanique qui est totalement jouissive, et finalement priver le lecteur de la mécanique jouissive de la vengeance en disant je vais pas rentrer dans le cliché, ça lui rend pas tant service que ça.
Samantha ?
Bah, je pense qu'on va se mettre au bouddhiste, au bouddhisme, hein, finalement, dans nos œuvres. Peut-être que le pardon, c'est la prochaine étape, hein, pour une vengeance.
Ça serait, peut-être. Ça serait beau, ça. Voilà. Est-ce que ça serait aussi drôle ?
Finalement, je ne le tue pas. C'est ça, exactement. Mais je pense, ce que je disais sur le traitement tout à l'heure, c'est que finalement, il y a tout un tas de façons de raconter une histoire. Ça peut être dans la narration, ça peut être dans le choix des personnages de la psychologie, ça peut être dans le monde qu'on invente. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on, à partir du moment où on travaille sur l'intériorité humaine, c'est sûr qu'on va retrouver un certain nombre de sentiments, voilà, qu'on va explorer. Et finalement, moi, je trouve ça plutôt rassurant, puisque quand on lit un livre, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce que j'ai envie, c'est à la fois d'être rassurée, de me rendre compte qu'il y a des gens qui peut-être ressentent des choses un peu comme moi, et en même temps de me rendre compte que bah, y a aussi évidemment des grandes différences. Donc finalement, oui, voilà, c'est...
Dépasser le cliché ?
En fait, je pense, alors là c'est mon mécanisme, donc je ne sais pas du tout pour les autres, mais c'est vrai que comment on devient écrivain, moi dans mon cas, c'était quand je regardais, quand j'étais tout gamin et que je regardais des films, que je lisais des livres et que ça me touchait, que je trouvais que le livre était vraiment bien, le film était vraiment bien, quelque part j'avais envie, je me disais mais j'aurais aimé écrire ça, j'aurais aimé réaliser ça, c'est vraiment, c'est ça, je trouve ça magnifique, si la personne a réussi à me toucher, comment elle a fait, comment est-ce que je peux décortiquer, comment est-ce que la personne a réussi à me toucher autant. Et finalement, maintenant que je suis écrivain, quand j'écris un livre, il y a cette logique de dire oui, c'est des clichés, oui, c'est finalement des choses qui ont été rabâchées. Il y a des gens qui disent, et ils ont tout à fait raison, que tout a déjà été fait. La plupart des thèmes ont déjà été traités. Et comme vous avez pu voir ma grande culture, tapez un jour sur Google, en fait, je crois que ça s'appelle Zombie Stories. Et en fait, c'est une histoire super drôle en anglais où en fait, c'est un éditeur qui raconte l'histoire de quelqu'un qui vient en disant j'ai une histoire de zombie, et l'éditeur l'arrête en disant ça a déjà été fait. Il fait non mais attends, en fait c'est un zombie qui est pas vraiment un zombie, ça a déjà été fait. C'est un zombie gynéco, ça a déjà été fait. Et il le dit 40 fois, genre c'est un zombie à Halloween qui s'est déguisé en zombie pour tromper sa copine lesbienne, ça a déjà été fait. Avec à chaque fois évidemment la référence, sinon ce serait pas drôle. Donc vraiment le bouquin qui existe. Et donc là, on parle des zombies, mais ça existe dans toute la littérature, c'est-à-dire que l'écrivain qui va se réveiller un jour en disant j'ai une idée géniale, dans 99,9% des cas, l'idée géniale a déjà été traitée à un moment, et ce qui va changer, ça va être effectivement la manière de le dire, les personnages et toutes ces choses. Donc nous, notre rôle, ça va être de trouver des personnages attachants, de trouver quelques twists, mais qui finalement, c'est des twists. Les twists qu'on a, les twists qui sont hyper surprenants, c'est des twists qui existent déjà, c'est juste la manière dont on les utilise qui vont surprendre les gens. Mais les twists, genre en fait, il était vivant, en fait, c'est quelqu'un d'autre, en fait, c'était pas le méchant. Tout ça, c'est des choses qui existent depuis des centaines d'années. Oui, même plus.
Tu aurais casé des zombies dans une conférence sur la vengeance.
Ouais.
Pas mal.
Les zombies peuvent se venger.
Ah, oui.
Ou on peut se venger des zombies.
Oui.
Un petit peu aveugle comme vengeance quand même.
Mais qu'est-ce qui importe alors, puisque l'intrigue, la vengeance est une intrigue qui est devenue un peu habituelle, qu'est-ce qui importe? C'est les personnages? C'est le décor?
Ça dépend pour quel auteur, hein, j'imagine, mais... Personnellement, bon, alors, l'univers, je pense, toute cette construction qu'il y a autour et comment tout ça, organiquement, en fait, va interagir. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, oui, les personnages en soi, ils peuvent être très creusés, mais si on n'a pas derrière l'univers qui rentre en interaction avec eux, bon, bah, soit. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment, je le vois à l'écriture, moi, comme vraiment un travail où on met en place un organisme presque vivant, les différentes choses, le point de vue, enfin, il y a tout un tas de choix qu'on va faire à un certain moment. Donc j'ai envie de dire que tout est important. Mais si on est sur le traitement de la vengeance, en effet, je pense quand même qu'au niveau du personnage, il faut qu'on ait particulièrement envie de le suivre.
Donc il faut un personnage attachant pour l'auteur autant que pour
Oui, et puis personnage attachant
le lecteur.
Pour l'auteur autant que pour le lecteur, ça c'est sûr. il faut que le personnage soit attachant et il faut que le contexte soit original dans la mesure où la vengeance ne sera à peu près jamais. Donc voilà, moi, je sais pas si j'ai choisi de traiter trois types qui se réveillent sans mémoire, je ne sais pas où, c'est un petit peu bizarroïde. J'aurais pu traiter quelqu'un qui se fait crever les pneus de sa Mégane, on peut aussi se venger, mais c'est plus ennuyeux. Disons que la richesse des situations peut aider, et surtout effectivement le fait que le personnage soit attachant et permette une identification relativement facile pour le lecteur, ou une certaine empathie au minimum.
Ben, je crois qu'il est 13h, le débat est terminé. Merci de votre attention et vengez-vous sur ces auteurs si vous le voulez en exigeant des dédicaces. Ils sont en face sous la bulle des livres. Merci beaucoup. Merci à vous trois.